La débâcle, première partie, chapitre 7. Dans Remilly, une effrayante confusion d'hommes, de chevaux et de voitures encombrait la rue en pente, dont les lacets descendent à la Meuse. Devant l'église, à mi-côte, des canons aux roues enchevêtrées ne pouvaient plus avancer, malgré les jurons et les coups. En bas, près de la filature, où gronde une chute de Léman, c'était toute une queue de fourgons échoués, barrant la route, tandis qu'un flot sans cesse accru de soldats se battait à l'auberge de la Croix de Malte, sans même obtenir un verre de vin. Et cette poussée furieuse allait s'écraser plus loin, à l'extrémité méridionale du village, qu'un bouquet d'arbres sépare du fleuve, et où le génie avait, le matin, jeté un pont de bateau. Un bac se trouvait à droite. La maison du passeur blanchissait, solitaire, dans les hautes herbes. Sur les deux rives, on avait allumé de grands feux, dont les flammes, activées par moments, incendiaient la nuit, éclairant l'eau et les berges d'une lumière de plein jour. Alors apparaissait l'énorme entassement de troupes qui attendaient, pendant que la passerelle ne permettait que le passage de deux hommes à la fois, et que sur le pont, large au plus de 3 mètres, la cavalerie, l'artillerie, les bagages défilaient au pas, d'une lenteur mortelle. On disait qu'il y avait encore là une brigade du premier corps, un convoi de munitions, sans compter les 4 régiments de cuirassiers de la division Bonnemain. Et, derrière, arrivait tout le 7e corps, 30 et quelques 1000 hommes, croyant avoir l'ennemi sur les talons, ayant la hâte fébrile de se mettre à l'abri sur l'autre rive. Un moment, ce fut du désespoir. Et quoi ? On marchait depuis le matin sans manger. On venait encore de se tirer, à force de jambes, du terrible défilé d'Haraucourt. Tout cela pour buter dans ce désarroi, dans cet effarement contre un mur infranchissable. Avant 10 heures, peut-être, le tour des derniers venus n'arriverait pas. Et chacun sentait, bien que si les Prussiens n'osaient continuer de nuit leur poursuite, ils seraient là dès la pointe du jour. Pourtant, l'ordre de former les faisceaux fut donné. On campa sur les vastes coteaux nus, dont les pentes, longées par la route de Mouzon, descendent jusqu'aux prairies de la Meuse. En arrière, couronnant un plateau, l'artillerie de réserve s'établit en bataille, braqua ses pièces vers le défilé pour en battre la sortie au besoin. Et, de nouveau, l'attente commença, pleine de révolte et d'angoisse. Cependant, le 106e se trouvait installé, au-dessus de la route, dans un chaume qui dominait la vaste plaine. C'était à regret que les hommes avaient lâché leurs fusils, jetant des regards en arrière, hantés de la crainte d'une attaque. Tous, le visage dur et fermé, se taisaient, ne grognaient par instant que de sourdes paroles de colère. 9 heures allaient sonner, il y avait 2 heures qu'on était là, et beaucoup, malgré l'atroce fatigue, ne pouvait dormir, allongé par terre, tressaillant, prêtant l'oreille au moindre bruit lointain. Ils ne luttaient plus contre la faim qui les dévorait. On mangerait là-bas, de l'autre côté de l'eau, et l'on mangerait de l'herbe si l'on ne trouvait pas autre chose. Mais l'encombrement ne semblait que s'accroître. Les officiers que le général Douai avait postés près du pont revenaient de 20 minutes en 20 minutes avec la même et irritante nouvelle que des heures encore seraient nécessaires. Enfin, le général s'était décidé à se frayer lui-même un passage jusqu'au pont. On le voyait dans le flot se débattant, activant la marche. Maurice, assis contre un talus avec Jean, répéta vers le nord le geste qu'il avait eu déjà. Sedan est au fond. Et tiens, Bazeille est là, et puis Douzy, et puis Carignan sur la droite. C'est à Carignan sans doute que nous allons nous concentrer. Ah, s'il faisait jour, tu verrais, il y a de la place. » Et son geste embrassait l'immense vallée pleine d'ombre. Le ciel n'était pas si obscur qu'on ne pût distinguer dans le déroulement des prés noirs le cours pâle du fleuve. Les bouquets d'arbres faisaient des masses plus lourdes, une rangée de peupliers surtout, à gauche, qui barrait l'horizon d'une digue fantastique. Puis, dans les fonds, derrière Sedan, piqueté de petites clartés vives, c'était un entassement de ténèbres, comme si toutes les forêts des Ardennes eussent jeté là le rideau de leur chaîne centenaire. Jean avait ramené ses regards sur le pont des bateaux, au-dessous d'eux. « Regarde donc, tout va fiche le camp, jamais nous ne passerons. » Les feux sur les deux rives brûlaient plus haut, et leur clarté en ce moment devenait si vive que la Seine, dans son effroi, s'évoquait avec une netteté d'apparition. Sous le poids de la cavalerie et de l'artillerie défilant depuis le matin, les bacs qui supportaient les madriers avaient fini par s'enfoncer, de sorte que le tablier se trouvait dans l'eau à quelques centimètres. C'étaient maintenant les cuirassiers qui passaient, deux par deux, d'une file ininterrompue, sortant de l'ombre de l'une des berges pour rentrer dans l'ombre de l'autre. Et l'on ne voyait plus le pont, il semblait marcher sur l'eau, sur cette eau violemment éclairée, où dansait un incendie. Les chevaux hennissants, les crins effarés, les jambes raidies, s'avançaient dans la terreur de ce terrain mouvant qu'ils sentaient fuir. Debout sur les étriers, serrant les guides, les cuirassiers passaient toujours, drapés dans leurs grands manteaux blancs, ne montrant que leurs casques, tout allumés de reflets rouges. Et l'on aurait cru des cavaliers fantômes allant à la guerre des ténèbres avec des chevelures de flammes. Une plainte profonde s'exhala de la gorge serrée de Jean. « Oh, j'ai faim !» Autour d'eux, cependant, les hommes s'étaient endormis, malgré les tiraillements des estomacs. La fatigue, trop grande, emportait la peur, les terrassait tous sur le dos, la bouche ouverte, anéantis sous le ciel sans lune. L'attente, d'un bout à l'autre des coteaux nus, était tombée à un silence de mort. « Oh, j'ai faim à manger de la terre !» C'était le cri que Jean, si dur au mal et si muet, ne pouvait plus retenir, qu'il jetait malgré lui dans le délire de sa faim, n'ayant rien mangé depuis près de 36 heures. Alors Maurice se décida, en voyant que, de 2 ou 3 heures peut-être, leur régiment ne passerait pas la Meuse. « Écoute, j'ai un oncle par ici, tu sais, l'oncle Fouchard dont je t'ai parlé. C'est là-haut, à 500 ou 600 mètres. Et j'hésitais, mais puisque tu as si faim, l'oncle nous donnera bien du pain, que diable !» Et il emmena son compagnon, qui s'abandonnait. La petite ferme du père Fouchard se trouvait au sortir du défilé d'Haraucourt, près du plateau où l'artillerie de réserve avait pris position. C'était une maison basse, avec d'assez grandes dépendances, une grange, une étable, une écurie. Et de l'autre côté de la route, dans une sorte de remise, le paysan avait installé son commerce de boucher ambulant, son abattoir où il tuait lui-même les bêtes, qu'il promenait ensuite au travers des villages dans sa carriole. Maurice, en approchant, restait surpris de n'apercevoir aucune lumière. « Ah, le vieil avare, il aura tout barricadé, il n'ouvrira pas !» Mais un spectacle l'arrêta sur la route. Devant la ferme s'agitait une dizaine de soldats, des maraudeurs sans doute, des affamés qui cherchaient fortune. D'abord ils avaient appelé, puis frappé. Et maintenant, voyant la maison noire et silencieuse, ils tapaient dans la porte à coups de crosse pour en faire sauter la serrure. De grosses voix grondaient. « Nom de Dieu, va donc ! Fous-moi ça par terre, puisqu'il n'y a personne !» Brusquement, le volet d'une lucarne de grenier se rabattit. Un grand vieillard en blouse, tête nue, apparut, une chandelle dans une main, un fusil dans l'autre. Sous sa rude chevelure blanche, sa face se carrait, coupé de larges plis, le nez fort, les yeux gros et pâles, le menton volontaire. « Vous êtes tous des voleurs que vous cassez tout » cria-t-il d'une voix dure. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Les soldats, un peu interdits, se reculaient. « Nous crevons de faim, nous voulons à manger !»« Mais je n'ai rien, pas une croûte. Est-ce que vous croyez comme ça qu'on en a pour nourrir des 100 000 hommes ? Ce matin, il y en a d'autres, oui, de ceux au général Ducrot qui ont passé et qui m'ont tout pris. » Un à un, les soldats se rapprochaient. « Ouvrez toujours, nous nous reposerons, vous trouverez bien quelque chose. » Et déjà, ils tapaient de nouveau, lorsque le vieux, posant le chandelier sur l'appui, épaula son arme. « Aussi vrai qu'il y a là une chandelle, je casse la tête au premier qui touche à ma porte !» Alors la bataille faillit s'engager. Des imprécations montaient. Une voix cria qu'il fallait faire son affaire à ce cochon de paysan, qui, comme tous les autres, aurait noyé son pain plutôt que d'en donner une bouchée aux soldats. Et les canons des chassepots se braquaient. On allait le fusiller presque à bout portant, tandis qu'il ne se retirait même pas, rageur et têtu, en plein dans la clarté de la chandelle. « Rien du tout, pas une croûte, on m'a tout pris !» Effrayé, Maurice s'élança, suivi de Jean. « Camarade, camarade !» Il abattait les fusils des soldats, et, levant la tête, suppliant, « Voyons, soyez raisonnable, vous ne me reconnaissez pas, c'est moi !»«
Qui, toi ?»«
Maurice Levasseur, votre neveu !» Le père Fouchard avait repris la chandelle. Sans doute il le reconnut, mais il s'obstinait dans sa volonté de ne pas même donner un verre d'eau.
« Neveu ou non, est-ce qu'on sait dans ce noir de gueux ? Foutez-moi tous le camp, ou je tire !»
Et au milieu des vociférations, des menaces de le descendre et de mettre le feu à la cambuse, il n'eut plus que ce cri, il le répéta à 20 reprises.
« Foutez-moi tous le camp, ou je tire !»«
Même sur moi, père ?» demanda tout d'un coup une voix forte qui domina le bruit. Les autres s'étant écartés, un maréchal des logis parut dans la clarté dansante de la chandelle. C'était Honoré, dont la batterie se trouvait à moins de 200 mètres, et qui, depuis 2 heures, luttait contre l'irrésistible envie de venir frapper à cette porte. Il s'était juré de ne jamais en refranchir le seuil. Il n'avait pas échangé une seule lettre. Depuis 4 ans qu'il était au service avec ce père qui l'interpellait d'un ton si bref. Déjà, les soldats maraudeurs causaient vivement, se concertaient. Le fils du vieux est un gradé. Rien à faire, ça tournait mal, valait mieux chercher plus loin. Et ils filèrent, s'évanouirent dans l'épaisse nuit. Lorsque Fouchard comprit qu'il était sauvé du pillage, il dit simplement, sans émotion aucune, comme s'il avait vu son fils la veille. « C'est toi ? Bon, je descends. » Ce fut long. On entendit à l'intérieur ouvrir et fermer les serrures, tout un ménage d'hommes qui s'assurent que rien ne traîne. Puis, enfin, la porte s'ouvrit, mais entrebâillée à peine, tenue d'un poing vigoureux. « Entre, toi, et personne autre !» Pourtant, il ne put refuser asile à son neveu, malgré sa visible répugnance. « Allons, toi aussi !» Et il repoussait impitoyablement la porte sur Jean. Il fallut que Maurice le suppliât, mais il s'entêtait. Non, non, il n'avait pas besoin d'inconnus, de voleurs chez lui qui casseraient ses meubles. Enfin, Honoré, d'un coup d'épaule, fit entrer le camarade, et le vieux dut céder, grognant de sourdes menaces. Il n'avait pas lâché son fusil. Puis, quand il les eut conduits à la salle commune et qu'il eut posé le fusil contre le buffet, la chandelle sur la table, il tomba dans un obstiné silence.
« Dis donc, père, nous crevons de faim. Vous nous donnerez bien du pain et du fromage à nous autres. »
Il ne répondait pas, semblait ne pas entendre, retournait sans cesse pour écouter devant la fenêtre si quelque autre bande ne venait pas faire le siège de sa maison.
« L'oncle, voyons, Jean est un frère, il s'est arraché pour moi les morceaux de la bouche, et nous avons tant souffert ensemble. » ils tournaient, s'assuraient que rien ne manquait, ne les regardaient même pas. Et enfin, il se décida, toujours sans une parole. Brusquement, il reprit la chandelle, les laissa dans l'obscurité, en ayant le soin de refermer derrière lui la porte à clef pour que personne ne le suivît. On l'entendit qui descendait l'escalier de la cave. Ce fut encore très long. Et lorsqu'il revint, barricadant tout de nouveau, il posa au milieu de la table un gros pain et un fromage, dans ce silence, qui, la colère passée, n'était plus que de la politique, car on ne sait jamais où cela mène de parler. D'ailleurs, les trois hommes se jetaient sur la nourriture, dévorant, et il n'y eut plus que le bruit furieux de leurs mâchoires. Honoré se leva, alla chercher près du buffet une cruche d'eau. « Père, vous auriez bien pu nous donner du vin. » Alors, calmé et sûr de lui, Fouchard retrouva sa langue. « Du vin ? Je n'en ai plus, plus une goutte. Les autres, ceux de Ducrot, m'ont tout bu, tout mangé, tout pillé. » Il mentait, et cela, malgré son effort, était visible dans le clignotement de ses gros yeux pâles. Depuis 2 jours, il avait fait disparaître son bétail, les quelques bêtes à son service, ainsi que les bêtes réservées à sa boucherie, les emmenant de nuit, les cachant, on ne savait où, au fond de quel bois, de quelle carrière abandonnée. Et il venait de passer des heures à tout enfouir chez lui, le vin, le pain, les moindres provisions, jusqu'à la farine et au sel, de sorte qu'on aurait, en effet, vainement fouillé les armoires. La maison était nette. Il avait même refusé de vendre au premier soldat qui s'était présenté. On ne savait pas. Il y aurait peut-être de meilleures occasions. Et des idées vagues de commerce s'ébauchaient dans son crâne d'avare, patient et rusé. Maurice, qui se rassasiait, causa le premier. « Et ma sœur Henriette, y a-t-il longtemps que vous l'avez vue ?» Le vieux continuait de marcher, avec des coups d'œil sur Jean, en train d'engloutir d'énormes bouchées de pain. Et, sans se presser, comme après une longue réflexion, « Henriette ? Oui, l'autre mois, à Sedan. Mais j'ai aperçu Wes, son mari, ce matin. Il accompagnait son patron, monsieur de la Herche, qu'il avait pris avec lui dans sa voiture, pour aller voir passer l'armée à Mouzon, histoire simplement de s'amuser. » Une ironie profonde passa sur le visage fermé du paysan. Peut-être bien tout de même qu'ils l'auront trop vu, l'armée, et qu'ils ne se sont pas amusés beaucoup, car dès 3 heures, on ne pouvait plus circuler sur les routes, tant elles étaient encombrées de soldats qui fuyaient. De la même voix tranquille et comme indifférente, il donna quelques détails sur la défaite du 5e corps, surpris à Beaumont au moment de faire la soupe, forcé de se replier, culbuté jusqu'à Mouzon par les Bavarois. Des soldats débandés, fous de panique, qui traversaient Remilly, lui avaient crié que Defailly venait encore de les vendre à Bismarck. Et Maurice songeait à ses marches affolées des 2 derniers jours, à ses ordres du maréchal de MacMahon, hâtant la retraite, voulant passer la Meuse à tout prix, lorsqu'on avait perdu, en incompréhensibles hésitations, tant de journées précieuses. Il était trop tard. Sans doute, le maréchal, qui s'était emporté en trouvant à Auch le 7e corps, qu'il croyait à la besace, avait dû être convaincu que le 5e corps campait déjà à Mouzon, lorsque celui-ci, s'attardant à Beaumont, s'y laissait écraser. Mais qu'exiger de troupes mal commandées, démoralisées par l'attente et la fuite, mourantes de faim et de fatigue? Fouchard avait fini par se planter derrière Jean, étonné de voir les bouchers disparaître. Et froidement goguenard, « Hein ? Ça va mieux ?» Le caporal leva la tête, répondit avec sa même carrure de paysan. « Ça commence, merci bien !» Honoré, depuis qu'il était là malgré sa grosse faim, s'arrêtait parfois, tournait la tête à un bruit qu'il croyait entendre. Si, après tout un combat, et il avait manqué à son serment de ne plus jamais remettre les pieds dans cette maison, c'était poussé par l'irrésistible désir de revoir Sylvine. Il gardait sous sa chemise, contre sa peau même, la lettre qu'il avait reçue d'elle à Reims. Cette lettre si tendre où elle lui disait qu'elle l'aimait toujours, qu'elle n'aimerait jamais que lui, malgré le cruel passé, malgré Goliath et le petit Charlot qu'elle avait eu de cet homme. Et il ne pensait plus qu'à elle. Et il s'inquiétait de ne pas l'avoir encore vue, tout en se raidissant pour ne pas montrer son anxiété à son père. Mais la passion l'emporta. Il demanda, d'une voix qu'il s'efforçait de rendre naturelle, « Et Sylvine, elle n'est donc plus ici ?» Fouchard eut sur son fils un regard oblique, luisant d'un rire intérieur.
« Si, si. »
Puis il se tut, cracha longuement. Et l'artilleur dut reprendre, après un silence. « Alors, elle est couchée ?»«
Non, non. »
Enfin le vieux daigna expliquer qu'il était tout de même allé le matin au marché de Raucourt avec sa carriole en emmenant sa servante. Ce n'était pas une raison, parce qu'il passait des soldats pour que tout le monde cessât de manger de la viande et pour qu'on ne fît plus ses affaires. Il avait donc, comme tous les mardis, emporté là-bas un mouton et un quartier de bœuf. Et il achevait sa vente lorsque l'arrivée du 7e corps l'avait jeté au milieu d'une bagarre épouvantable. On courait, on se bousculait. Alors, il avait eu peur qu'on ne lui prît sa voiture et son cheval. Il était parti, en abandonnant Sylvine, qui faisait justement des commissions dans le bourg. « Oh, elle va revenir !» conclut-il de sa voix tranquille. « Elle a dû se réfugier chez le docteur d'Alichamps, son parrain. C'est une fille tout de même courageuse avec son air de ne savoir qu'obéir. Sûrement, elle a bien des qualités. » Raillait-il ? Voulait-il expliquer pourquoi il la gardait, cette fille qu'il avait fâchée avec son fils, et malgré l'enfant du Prussien dont elle refusait de se séparer ? De nouveau, il eut son coup d'œil oblique, son rire muet. « Charlot est là qui dort dans sa chambre, et bien sûr qu'elle ne va pas tarder. » Honoré, les lèvres tremblantes, regarda son père si fixement que celui-ci reprit sa marche. Et le silence recommença, infini, tandis que, machinalement, il se recoupait du pain, mangeant toujours. Jean continuait, lui aussi, sans éprouver le besoin de dire une parole. Rassasié, les coudes sur la table, Maurice examinait les meubles, le vieux buffet, la vieille horloge, rêvait à des journées de vacances qu'il avait passées à Remilly autrefois avec sa sœur Henriette. Les minutes s'écoulaient. L'horloge sonna 11 heures. « Diable ! » murmura-t-il. « Il ne faut pas laisser partir les autres !» Et, sans que Fouchard s'y opposât, il alla ouvrir la fenêtre. Toute la vallée noire se creusa, roulant sa mer de ténèbres. Pourtant, lorsque les yeux s'étaient habitués, on distinguait très nettement le pont, éclairé par les feux des deux berges. Des cuirassiers passaient toujours dans leurs grands manteaux blancs, pareils à des cavaliers fantômes, dont les chevaux, fouettés d'un vent de terreur, marchaient sur l'eau. Et cela, sans fin, interminable, toujours du même train de vision lente. Vers la droite, les coteaux nus où dormait l'armée restaient dans une immobilité, un silence de mort. « Ah, bien !» reprit Maurice avec un geste désespéré. « Ce sera pour demain matin. » Il avait laissé la fenêtre grande ouverte, et le père Fouchard, saisissant son fusil, en jamba l'appui, sauta dehors avec l'agilité d'un jeune homme. On l'entendit marcher un instant d'un pas régulier de factionnaire. Puis, il n'y eut plus que la grande rumeur lointaine du pont encombré. Sans doute, il s'était assis au bord de la route, plus tranquille d'être là, voyant venir le danger, tout prêt à rentrer d'un saut et à défendre sa maison. Maintenant, à chaque minute, Honoré regardait l'horloge. Son inquiétude croissait. Il n'y avait que 6 kilomètres de Raucourt à Remilly. Ce n'était guère plus d'une heure de marche pour une fille jeune et solide comme Sylvine. Pourquoi n'était-elle pas là, depuis des heures que le vieux l'avait perdue dans la confusion de tout un corps d'armée, noyant le pays, bouchant les routes. Certainement, quelque catastrophe s'était produite. et il la voyait dans de mauvaises histoires, éperdue en plein champ, piétinée par les chevaux. Mais soudain, tous trois se levèrent. Un galop descendait la route, et ils venaient d'entendre le vieux qui armait son fusil.
« Qui va là ?»
cria rudement ce dernier.
« C'est toi, Sylvine ?»
On ne répondit pas. Il menaça de tirer, répétant sa question. Alors, une voix haletante, oppressée, parvint à dire
« Oui, oui, c'est moi, père Fouchard !»
Puis tout de suite elle demanda
« Et Charlot ?»«
Il est couché, il dort !»«
Ah bon, merci !»
Du coup, elle ne se hâta plus, poussant un gros soupir, où toute son angoisse et toute sa fatigue s'exhalaient.
« Entre par la fenêtre !» reprit Fouchard. « Il y a du monde !»
Et comme elle sautait dans la salle, elle resta saisie devant les trois hommes. Sous la lumière vacillante de la chandelle, elle apparaissait, très brune, avec ses épais cheveux noirs, ses grands beaux yeux, qui suffisaient à sa beauté dans son visage ovale, d'une tranquillité forte de soumission. Mais en ce moment, la vue brusque d'Honoré avait jeté tout le sang de son cœur à ses joues, et elle n'était pas étonnée pourtant de le trouver là. Elle avait songé à lui, en galopant depuis Raucourt. Lui, étranglé, défaillant, affectait le plus grand calme. « Bonsoir, Sylvine. »«
Bonsoir, Honoré. »
Alors, pour ne pas éclater en sanglots, elle tourna la tête. Elle sourit à Maurice, qu'elle venait de reconnaître. Jean la gênait. Elle étouffait. Elle ôta le foulard qu'elle avait au cou. Honoré reprit, ne la tutoyant plus comme autrefois.
« Nous étions inquiets de vous, Sylvine, à cause de tous ces Prussiens qui arrivent. »
Elle redevint subitement pâle, la face bouleversée. Et, avec un regard involontaire vers la chambre où dormait Charlot, agitant la main comme pour chasser une vision abominable, elle murmura
« Les Prussiens ?
Oh oui, oui, je les ai vus. » À bout de force, tombée sur une chaise, elle raconta que lorsque le 7e corps avait envahi Raucourt, elle s'était réfugiée chez son parrain, le docteur d'Alichamp, espérant que le père Fouchard aurait l'idée de venir l'y prendre avant de repartir. La grande route était encombrée d'une telle bousculade qu'un chien ne s'y serait pas risqué. Et jusque vers 4 heures, elle avait patienté, assez tranquille, faisant de la charpie avec des dames. Car le docteur, dans la pensée qu'on enverrait peut-être des blessés de Metz et de Verdun, si l'on se battait par là, s'occupait depuis 15 jours à installer une ambulance dans la grande salle de la mairie. Du monde arrivait qui disait qu'on pourrait bien se servir tout de suite de cette ambulance. Et en effet, dès midi, on avait entendu le canon du côté de Beaumont. Mais ça se passait loin encore, on n'avait pas peur. Lorsque, tout d'un coup, comme les derniers soldats français quittaient Raucourt, un obus était venu, avec un bruit effroyable, défoncer le toit d'une maison voisine. 2 autres suivirent, c'était une batterie allemande qui canonnait l'arrière-garde du 7e corps. Déjà, des blessés de Beaumont se trouvaient à la mairie. On craignait qu'un obus ne les achevât sur la paille, où ils attendaient que le docteur vînt les opérer. Fous d'épouvante, les blessés se levaient, voulaient descendre dans les caves, malgré leurs membres fracassés qui leur arrachaient les cris de douleur.
« Et alors ?» continua Sylvine. « Je ne sais pas comment ça s'est fait. Il y a eu un brusque silence. J'étais montée à une fenêtre qui donne sur la rue et sur la campagne. Je ne voyais plus personne. Pas un seul pantalon rouge. Quand j'ai entendu des gros pas lourds et une voix a crié quelque chose, et toutes les crosses des fusils sont tombées en même temps par terre. C'était, en bas, dans la rue, des hommes noirs, petits, l'air sale, avec de grosses têtes vilaines, coiffées de casques, pareils à ceux de nos pompiers. On m'a dit que c'était des Bavarois. Puis, comme je levais les yeux, j'en ai vu, oh, j'en ai vu des milliers et des milliers qui arrivaient par les routes, par les champs, par les bois, en colonnes serrées, sans fin. Tout de suite, le pays en a été noir, une invasion noire, des sauterelles noires, encore et encore, si bien qu'en un rien de temps, on n'a plus vu la terre.
Elle frémissait. Elle répéta son geste, chassant de la main l'affreux souvenir.
Et alors, on n'a pas idée de ce qui s'est passé. Il paraît que ces gens-là marchaient depuis 3 jours et qu'ils venaient de se battre à Beaumont, comme des enragés. Aussi crevaient-ils de faim, les yeux hors de la tête, à moitié fous. Les officiers n'ont pas même essayé de les retenir. Tous se sont jetés dans les maisons, dans les boutiques, enfonçant les portes et les fenêtres, cassant les meubles, cherchant à manger et à boire, avalant n'importe quoi, ce qui leur tombait sous la main. Chez Monsieur Simoneau, l'épicier, j'en ai aperçu un qui puisait avec son casque au fond d'un tonneau de mélasse. D'autres mordaient dans des morceaux de lard cru, d'autres mâchaient de la farine. Déjà, disait-on, il ne restait plus rien depuis 48 heures que des soldats passaient, et ils trouvaient quand même sans doute des provisions cachées, de sorte qu'ils s'acharnaient à tout démolir, croyant qu'on leur refusait la nourriture. En moins d'une heure, les épiceries, les boulangeries, les boucheries, les maisons bourgeoises elles-mêmes ont eu leurs vitrines fracassées, leurs armoires pillées, leurs caves envahies et vidées. Chez le docteur, on ne s'imagine pas une chose pareille. J'en ai surpris un gros qui a mangé tout le savon. Mais c'est dans la cave surtout qu'ils ont fait du ravage. On les entendait d'en haut hurler comme des bêtes, briser les bouteilles, ouvrir les cannelles des tonneaux, dont le vin coulait avec un bruit de fontaine. Ils remontaient les mains rouges d'avoir pataugé dans tout ce vin répandu. Et voyez ce que c'est, quand on redevient ainsi des sauvages. Monsieur d'Alichamp a voulu vainement empêcher un soldat de boire 1 litre de sirop d'opium qu'il avait découvert. Pour sûr, le malheureux est mort à l'heure qu'il est, tant il souffrait quand je suis partie. Prise d'un grand frisson, elle se mit les 2 mains sur les yeux afin de ne plus voir. Non, non, j'en ai trop vu, ça m'étouffe.
Le père Fouchard, toujours sur la route, s'était approché, debout devant la fenêtre, pour écouter. Et le récit de ce pillage le rendait soucieux. On lui avait dit que les Prussiens payaient tout. Est-ce qu'ils allaient se mettre à être des voleurs maintenant? Maurice et Jean, eux aussi, se passionnaient à ces détails sur un ennemi que cette fille venait de voir et qu'eux n'avaient pu rencontrer depuis 1 mois qu'on se battait. Tandis que, pensif, la bouche souffrante, Honoré ne s'intéressait qu'à elle, ne songeait qu'aux malheurs anciens qui les avaient séparés. Mais, à ce moment, la porte de la chambre voisine s'ouvrit, et le petit Charlot parut. Il devait avoir entendu la voix de sa mère. Il accourait en chemise pour l'embrasser. Rose et blond, très fort, il avait une tignasse pâle frisée et de gros yeux bleus. Sylvine frémit de le revoir si brusquement, comme surprise de l'image qu'il lui apportait. Ne le connaissait-elle donc plus, cet enfant adoré, qu'elle le regardait effrayée, ainsi qu'une évocation même de son cauchemar? Puis elle éclata en larmes. « Mon pauvre petit !» Et elle le serra éperdument dans ses bras, à son cou, tandis qu'Honoré, livide, constatait l'extraordinaire ressemblance de Charlot avec Goliath. C'était la même tête carrée et blonde, toute la race germanique dans une belle santé d'enfance, souriante et fraîche. Le fils du Prussien, le Prussien, comme les farceurs de Remilly le nommaient. Et cette mère française qui était là, à l'étreindre sur son cœur, encore toute bouleversée, toute saignante du spectacle de l'invasion. Mon pauvre petit, sois sage, viens te recoucher. Fais dodo, mon pauvre petit. Elle l'emporta. Puis, quand elle revint de la pièce voisine, elle ne pleurait plus. Elle avait retrouvé sa calme figure de docilité et de courage. Ce fut Honoré qui reprit d'une voix tremblante. Et alors, les Prussiens?
Ah oui, les Prussiens. Eh bien, ils avaient tout cassé, tout pillé, tout mangé, tout bu. Ils volaient aussi le linge, les serviettes, les draps, jusqu'aux rideaux, qu'ils déchiraient en longues bandes pour se panser les pieds. J'en ai vu dont les pieds n'étaient plus qu'une plaie tant ils avaient marché. Devant chez le docteur, au bord du ruisseau, il y en avait une troupe qui s'était déchaussée et qui s'enveloppait les talons avec des chemises de femmes garnies de dentelles, volées sans doute à la belle Madame Lefèvre, la femme du fabricant. Jusqu'à la nuit, le pillage a duré. Les maisons n'avaient plus de portes, elles bâillaient sur la rue, par toutes les ouvertures des rez-de-chaussée. Et l'on apercevait les débris des meubles à l'intérieur, un vrai massacre qui mettait en colère les gens calmes. Moi, j'étais comme folle, je ne pouvais rester davantage. On a eu beau vouloir me retenir en me disant que les routes étaient barrées, qu'on me tuerait pour sûr. Je suis partie, je me suis jetée tout de suite dans les champs, à droite, en sortant de Raucourt. Des chariots de Français et de Prussiens en tas arrivaient de Beaumont. Deux ont passé près de moi, dans l'obscurité, avec des cris, des gémissements. Et j'ai couru, oh, j'ai couru à travers les terres, à travers les bois, je ne sais plus par où, en faisant un grand détour du côté de Villers. Trois fois je me suis cachée en croyant entendre des soldats, mais je n'ai rencontré qu'une autre femme qui courait aussi, qui se sauvait de Beaumont, elle, et qui m'a dit des choses à faire dresser les cheveux. Enfin, je suis ici, bien malheureuse, oh, bien malheureuse. Des larmes de nouveau la suffoquèrent. Une hantise la ramenait à ces choses. Elle répéta ce que lui avait conté la femme de Beaumont. Cette femme, qui habitait la grande rue du village, venait d'y voir passer l'artillerie allemande depuis la tombée du jour. Aux deux bouts, une haie de soldats portait des torches de résine, éclairant la chaussée d'une lueur rouge d'incendie. Et au milieu, coulait le fleuve des chevaux, des canons, des caissons, menés d'un train d'enfer en un galop furieux. C'était la hâte enragée de la victoire, la diabolique poursuite des troupes françaises, à achever, à écraser là-bas, dans quelques basses fosses. Rien n'était respecté, on cassait tout, on passait quand même. Les chevaux qui tombaient et dont on coupait les traits tout de suite étaient roulés, broyés, rejetés comme des épaves sanglantes. Des hommes qui voulurent traverser furent renversés à leur tour, hachés par les roues. Dans cet ouragan, les conducteurs, mourant de faim, ne s'arrêtaient même pas, attrapaient au vol des pains qu'on leur jetait. Tandis que les porteurs de torches, du bout de leurs baïonnettes, leur tendaient des quartiers de viande. Puis, du même fer, ils piquaient les chevaux, qui ruaient, affolés, galopant plus fort. Et la nuit s'avançait, et de l'artillerie passait toujours, sous cette violence accrue de tempête, au milieu des hurrahs frénétiques. Malgré l'attention qu'il donnait à ce récit, Maurice, foudroyé par la fatigue, après le repas goulu qu'il avait fait, venait de laisser tomber sa tête sur la table, entre ses deux bras. Un instant encore, Jean lutta, et il fut vaincu à son tour. Il s'endormit à l'autre bout. Le père Fouchard était redescendu sur la route. Honoré se trouva seul avec Sylvine, assise, immobile maintenant, en face de la fenêtre toujours grande ouverte. Alors, le maréchal des logis se leva, s'approcha de la fenêtre. La nuit restait immense et noire, gonflé du souffle pénible des troupes. Mais des bruits plus sonores, des chocs et des craquements montaient. En bas, maintenant, c'était de l'artillerie qui défilait sur le pont à demi submergé. Des chevaux se cabraient dans l'effroi de cette eau mouvante. Des caissons glissaient à demi qu'il fallait jeter complètement au fleuve. Et en voyant cette retraite sur l'autre rive, si pénible, si lente, qui durait depuis la veille et qui ne serait certainement pas achevée au jour, le jeune homme songeait à l'autre artillerie, à celle dont le torrent sauvage se ruait au travers de Beaumont, renversant tout, broyant bêtes et gens pour aller plus vite. Honoré s'approcha de Sylvine, et doucement, en face de ces ténèbres où passaient des frissons farouches, « Vous êtes malheureuse ?» Malheureuse. Elle sentit qu'il allait parler de la chose, de l'abominable chose, et elle baissait la tête. dites, comment est-ce arrivé? Je voudrais savoir. » Mais elle ne pouvait répondre. « Est-ce qu'il vous a forcé? Est-ce que vous avez consenti ?» Alors, elle bégaya, la voix étranglée. « Mon Dieu, je ne sais pas. Je vous jure que je ne sais pas moi-même. Mais voyez-vous, ce serait si mal de mentir. Et je ne puis m'excuser, non, je ne puis dire qu'il m'ait battue. Vous étiez partie, j'étais folle, et la chose est arrivée. Je ne sais pas comment. » Des sanglots l'étouffèrent, et lui, blême, la gorge également serrée, attendit une minute. Cette idée qu'elle ne voulait pas mentir le calmait pourtant. Il continua à l'interroger. La tête travaillait de tout ce qu'il n'avait pu comprendre encore. « Mon père vous a donc gardé ici ?» Elle ne leva même pas les yeux, s'apaisant, reprenant son air de résignation courageuse. « Je fais son ouvrage, je n'ai jamais coûté gros à nourrir, et comme il y a une bouche de plus avec moi, il en a profité pour diminuer mes gages. Maintenant, il est bien sûr que ce qu'il commande, je suis forcée de le faire. Mais vous, pourquoi êtes-vous restée ? » Du coup, elle fut si surprise qu'elle le regarda. « Moi ? Où donc voulez-vous que j'aille ? Au moins ici, mon petit et moi, nous mangeons, nous sommes tranquilles. » Le silence recommença. Tous les deux à présent avaient les yeux dans les yeux. Et au loin, par la vallée obscure, les souffles de foule montaient plus larges, tandis que le roulement des canons sur le pont de bateau se prolongeait sans fin. Il y eut un cri perdu d'homme ou de bête qui traversa les ténèbres avec une infinie pitié. « Écoutez, Sylvine, reprit Honoré lentement, vous m'avez envoyé une lettre qui m'a fait bien de la joie. Jamais je ne serais revenu, mais cette lettre, je l'ai encore relue ce soir, et elle dit des choses qu'on ne pouvait pas mieux dire. » Elle avait d'abord pâli en l'entendant parler de cela. Peut-être était-il fâché de ce qu'elle avait osé lui écrire comme une effrontée. Puis, à mesure qu'il s'expliquait, elle devenait toute rouge. « Je sais bien que vous ne voulez pas mentir, et c'est pour ça que je crois ce qu'il y a sur le papier. Oui, maintenant je le crois tout à fait. Vous avez eu raison de penser que, si j'étais mort à la guerre, sans vous revoir, ça m'aurait fait une grosse peine de m'en aller ainsi, en me disant que vous ne m'aimiez pas. Et alors, puisque vous m'aimez toujours, puisque vous n'avez jamais aimé que moi... » Sa langue s'embarrassait, il ne trouvait plus les mots, secoué d'une émotion extraordinaire. « Écoute, Sylvine, si ces cochons de Prussiens ne me tuent pas, je veux bien encore de toi. Oui, nous nous marierons ensemble, dès que je rentrerai du service. » Elle se leva toute droite. Elle eut un cri et tomba entre les bras du jeune homme. Elle ne pouvait parler. Tout le sang de ses veines était à son visage. Il s'était assis sur la chaise. Il l'avait prise sur ses genoux. J'y ai bien songé. C'était ce que j'avais à te dire en venant ici. Si mon père nous refuse son consentement, nous nous en irons. La terre est grande. Et ton petit, on ne peut pas l'étrangler, mon Dieu. Il en poussera d'autres. Je finirai par ne plus le reconnaître dans le tas. C'était le pardon. Elle se débattait contre cet immense bonheur. Elle murmura enfin. Non, ce n'est pas possible. C'est trop. Peut-être te repentirais-tu un jour. Mais que tu es bon, Honoré, et que je t'aime. D'un baiser sur les lèvres, il la fit taire, et elle n'avait déjà plus la force de refuser la félicité qui lui arrivait, toute la vie heureuse qu'elle croyait à jamais morte. D'un élan involontaire, irrésistible, elle le saisit à plein bras, elle le serra en le baisant à son tour, de toute sa force de femme, comme un bien reconquis, à elle seule, que personne maintenant ne lui enlèverait. Il était de nouveau à elle, lui qu'elle avait perdu, et elle mourrait plus tôt que de se le laisser reprendre. Mais, à cette minute, une rumeur monta,
un grand tumulte de réveil qui emplit l'épaisse nuit. Des ordres étaient criés, des clairons sonnaient, et toute une agitation d'ombre se levait des terrains nus, une mer indistincte et mouvante, dont le flot descendait déjà vers la route. En bas, les feux des deux berges allaient s'éteindre, on ne voyait plus que des masses confuses, piétinant, sans pouvoir même se rendre compte si le passage du fleuve continuait. Et jamais encore une telle angoisse, un tel effarement d'épouvante n'avait traversé les ténèbres. Le père Fouchard s'était rapproché de la fenêtre, criant qu'on partait. Réveillés, frissonnants et engourdis, Jean et Maurice se mirent debout. Vivement, Honoré avait serré les deux mains de Sylvine dans les siennes. « C'est juré, attends-moi » Elle ne trouva pas un mot. Elle le regarda de toute son âme, d'un dernier et long regard, comme il sautait par la fenêtre, pour rejoindre sa batterie, au pas de course. « Adieu, père !»« Adieu, mon garçon !» Et ce fut tout. Le paysan et le soldat se quittaient de nouveau, comme ils s'étaient retrouvés, sans une embrassade, en père et en fils, qui n'avaient pas besoin de se voir pour vivre. Quand ils eurent à leur tour quitté la ferme, Maurice et Jean galopèrent par les pentes raides. En bas, ils ne trouvèrent plus le 106e. Tous les régiments étaient déjà en branle. Et ils durent courir encore. On les renvoya à droite, à gauche. Enfin, la tête perdue au milieu d'une effroyable confusion, ils tombèrent sur leur compagnie que conduisait le lieutenant Rochat. Quant au capitaine Baudouin et au régiment lui-même, ils étaient sans doute ailleurs. Et Maurice fut alors stupéfié en constatant que cette cohue d'hommes, de bêtes, de canons sortait de Remilly et remontait du côté de Sedan, par la route de la rive gauche. Quoi donc? Qu'arrivait-il? On ne passait plus la Meuse? On battait en retraite vers le nord? Un officier de chasseurs qui se trouvait là, on ne savait comment, dit tout haut « Nom de Dieu! C'était le 28 qu'il fallait foutre le camp lorsque nous étions au chêne !» D'autres voix expliquaient le mouvement, des nouvelles arrivaient. Vers 2 heures du matin, un aide de camp du maréchal de MacMahon était venu dire au général Douai que toute l'armée avait l'ordre de se replier sur Sedan, sans perdre une minute. Écrasé à Beaumont, le 5e corps emportait les 3 autres dans son désastre. À ce moment, le général, qui veillait près du pont des bateaux, se désespérait de voir que sa 3e division avait seul passé le fleuve. Le jour allait naître, on pouvait être attaqué d'un instant à l'autre. Aussi fit-il avertir tous les chefs placés sous ses ordres de gagner Sedan, chacun pour son compte, par les routes les plus directes. Et lui-même, abandonnant le pont qu'il ordonna de détruire, fila le long de la rive gauche avec sa 1ère division et l'artillerie de réserve. Tandis que la 3e division suivait la rive droite, et que la 1ère, entamée à Beaumont, débandée, fuyait on ne savait où. Du 7e corps, qui ne s'était pas encore battu, et il n'y avait plus que des tronçons épars, perdus dans les chemins, galopant au fond des ténèbres. Il n'était pas 3 heures, et la nuit restait noire. Maurice, qui connaissait pourtant le pays, ne savait plus où il roulait, incapable de se reprendre dans le torrent débordé, la cohue affolée qui coulait à pleine route. Beaucoup d'hommes, échappés à l'écrasement de Beaumont, des soldats de toutes armes, en lambeaux, couverts de sang et de poussière, se mêlaient au régiment, se mêlaient épouvante. De la vallée entière, au-delà du fleuve, une rumeur semblable montait, d'autres piétinements de troupeaux, d'autres fuites. Le 1er corps qui venait de quitter Carignan et Douzy, le 12e corps parti de Mouzon avec les débris du 5e, tous ébranlés, emportés, sous la même force logique et invincible qui, depuis le 28, poussait l'armée vers le nord, la refoulait au fond de l'impasse où elle devait périr. Cependant, le petit jour parut, comme la compagnie Baudouin traversait Pont-Maugis, et Maurice se retrouva, les coteaux du Liry à gauche, la Meuse à droite, longeant la route. Mais cette aube grise, éclairée d'une infinie tristesse, baseille et ballant, noyés au bout des prairies.
tandis que Sedan, livide, un Sedan de cauchemar et de deuil, s'évoquait à l'horizon, sur l'immense rideau sombre des forêts. Et, après Vadelincourt, lorsqu'on eut enfin atteint la porte de Torcy, il fallut parlementer, supplier et se fâcher, presque faire le siège de la place, pour obtenir du gouverneur qu'il baissât le pont-levis. Il était 5 heures, le 7e corps entra dans Sedan, ivre de fatigue, de faim et de froid.